Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Romain Oquet.
Bonjour à tous.
Europe 1, 7h.
Dans ma tête, j'entends tout le temps, non-stop, le bruit des avions qui viennent bombarder à toute vitesse. Le corps, il est en France, l'âme, elle est à Gaza.
L'angoisse de cette étudiante palestinienne, elle est en France, ses parents à Gaza sous les tirs d'Israël et du Hamas. Témoignage dans un instant.
20 millions de Français avec au moins une dose dans le bras, mais les autorités peinent à écouler les stocks du vaccin AstraZeneca. 2 millions de doses dorment dans les frigos.
Dans ce journal, nous irons dans le Nord pour un week-end de l'ascension à la campagne où les gîtes ont été pris d'assaut avec un taux de réservation record.
Demandez le programme, car oui, les musées ouvrent aussi dans 3 jours. Alors, quels sont les expos incontournables? De Diane Chedouda.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU cet après-midi à 16h. Le secrétaire général se dit consterné par le nombre croissant de victimes au Proche-Orient.
L'escalade entre Israël et le Hamas a tué 157 personnes depuis le début de la semaine. Des hommes, des femmes, des enfants aussi qui, parfois, ont des proches en France.
Des affrontements vécus à distance par ces familles juives ou d'exilés palestiniens. Et des deux côtés, l'angoisse est la même. Jean-Jacques Herry.
Depuis le début de la semaine, le quotidien de Johanna et de son mari est bouleversé. Par procuration, la guerre s'est invitée dans leur appartement parisien.
J'ai ma famille et ma belle-famille qui vivent en Israël. On regarde tous les jours la télé et puis j'appelle ma famille tous les jours, voire 2-3 fois par jour. Là, je viens de raccrocher avec ma cousine il y a 10 minutes justement. Elle m'a dit qu'ils n'ont pas dormi de la nuit. Les alertes.
T'es un amour, ma chérie. Bon, t'entends ici, il y a les sirènes. Je te laisse.
Dans le camp d'en face, le discours et le ressenti est presque exactement le même, mais avec des communications plus difficiles qui accentuent l'angoisse. Sarah est originaire de Gaza. Ce n'est qu'hier que l'étudiante a réussi à joindre ses parents.
L'internet était déconnecté. Il me raconte comment, quand il y a des bombardements, l'immeuble bouge. J'ai habité à Gaza. Donc j'ai vécu 3 guerres et du coup maintenant je suis en France, je suis sain et sauve, mais dans ma tête j'entends tout le temps, non-stop, le bruit des avions qui viennent bombarder à toute vitesse. Le corps il est en France, l'âme elle est à Gaza. Moi aussi, je suis en guerre.
La même triste certitude anime aussi les deux femmes, celle qu'à chaque fois l'histoire se répète et qu'elle se répétera.
Jean-Jacques Herry. Et puis tout à l'heure, on en saura plus avec Monsieur Maurice Gourdeau-Montagne. Il est ancien ambassadeur, il a été conseiller diplomatique de Jacques Chirac et il connaît tous les rouages justement de cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Comment ça se passe? À quoi ça sert? Nous verrons ça avec lui.
En France, le nombre de patients en réanimation diminue encore. 4300 malades contre 5000 la semaine dernière.
Un autre indicateur côté vaccination, le seuil des 20 millions de primo-injections a été franchi hier, à peu près 40% de la population.
Notre reporter Romain Houck s'est rendu dans un centre de vaccination parisien où la cadence ne faiblit pas.
La deuxième injection sera le 26 juin, madame.
C'est un petit centre de vaccination installé au cœur de la mairie du 9e arrondissement. Petit, certes, mais là-bas, on vaccine à plein régime. 1000 injections quotidiennes, 7 jours sur 7. Cléo est souriante, elle vient de recevoir sa première dose, comme 20 millions de Français. Un chiffre qui lui donne de l'espoir.
C'est une excellente nouvelle et ça nous donne effectivement l'espoir de pouvoir revenir bientôt à une vie tout court. Et ça va me permettre de revoir les gens que j'aime.
Un retour à une vie normale que Jean-Christophe souhaite également. Ce médecin est sorti de sa retraite pour prêter main forte dans ce centre, il l'assure, il faut poursuivre les efforts pour retrouver la vie d'avant.
Nous ne savons pas exactement quel est le niveau où on atteint l'immunité collective. Peut-être que c'est 50%, un peu plus probablement. Il faut que le gouvernement atteigne 50% de la population protégée.
Le prochain objectif, désormais, c'est le Premier ministre Jean Castex qui l'a rappelé hier matin. 30 millions de vaccinés le 15 juin prochain.
Jean Castex qui s'était aussi inquiété cette semaine des retards pris dans les injections d'AstraZeneca. Selon le Premier ministre, 2 millions de doses sont toujours dans les frigos.
Alors justement, comment écouler ces stocks? On fait le point avec Marion Gauthier.
Vraiment, je vous exhorte à vous faire vacciner avec tous les vaccins, en particulier avec AstraZeneca.
C'était la semaine dernière. Le Premier ministre continue sa campagne de communication. Seulement la moitié des doses d'AstraZeneca est utilisée. Un retard impossible à rattraper, regrette Jimmy Mohamed, médecin généraliste d'Europe 1.
En centre de vaccination, les patients qui ont pris rendez-vous pour du Pfizer veulent être sûrs qu'on ne leur injecte pas de l'AstraZeneca un peu en douce. Donc je pense que en cabinet, ça va être très compliqué de les convaincre d'aller se faire vacciner avec ce vaccin.
Pourtant, ces vaccins continuent d'atterrir en France. 3 millions sont attendus d'ici la fin du mois, encore plus de 4 millions en juin. Pour Marie-Paul Kieny, cela reste des opportunités. La présidente du comité vaccin répète que les cas de thrombose concernent une personne sur 100 000.
La pandémie est encore à un haut niveau d'activité en France, avec des transmissions qui restent élevées. Vraiment, le vaccin AstraZeneca est un vaccin qui est nécessaire. Il faut que toutes ces doses soient utilisées et pas jetées, ça c'est sûr.
L'Allemagne a bien ouvert la vaccination AstraZeneca à toutes les personnes majeures, mais ici, la Haute Autorité de Santé a maintenu la limite à 55 ans. Reste l'envoi de doses à l'étranger. Là, Marie-Paul Kieny insiste, on ne peut pas envoyer seulement des doses que nous ne voulons pas aux pays pauvres.
Des pays pauvres, notamment en Afrique, qui ont pris du retard dans la vaccination. Pour l'OMS, cette deuxième année de pandémie pourrait même faire plus de victimes que la première.
Attention si vous rentrez ce soir de votre week-end prolongé, ce dimanche sera rouge sur les routes.
Vous êtes 12 millions à être partis pour l'Ascension.
12 millions
quand même. Et oui, on ne fait pas partie des chanceux, Pierre, c'est pas grave.
Bah non, faut bien commander le bateau. Hein.
La preuve avec ce taux justement de réservation exceptionnel dans les gîtes du nord de la France sur la très belle côte d'Opale, Cap Blanc-Nez, Cap Griné. Et pour ceux qui préfèrent la campagne, il y a aussi l'Avesnois et surtout le reportage de Maximilien Carlier.
Dans cet ancien corps de ferme, réhabilité en gîte, séjourne la famille Corba. Mélissandre, Flavien, les parents avec leurs deux enfants, Léo, 5 ans, qui s'amuse sur son petit vélo, et Léane, 9 ans.
Ce qui me plaît, c'est qu'on est dans le calme et c'est très joli ici.
Un cadre bucolique avec étang, forêt et champs, ça change de leur maison de ville du côté de Montbéliard. Pour la maman, le but du week-end, c'est revoir sa famille et surtout se ressourcer.
Sortir du stress du travail. Voilà, moi, je suis infirmière en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Hein. Nous retrouver ici avec les enfants, voilà, ça fait du bien. Il n'y avait plus beaucoup de gîtes de libre. On est tombé sur celui-ci parce que c'est vrai que les photos, tout de suite, ça nous a donné envie. Et on ne regrette pas notre choix.
Une réservation un peu au dernier moment. Dans le département, 97% des gîtes sont occupés. C'est 5 points de plus qu'un week-end de l'Ascension habituel. Stéphane Simon, le président des gîtes de France du Nord.
On est sur des taux historiques, on n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques mois. Les gens ont besoin de se retrouver un petit peu à la campagne, puis être dans pleine nature.
Avec une clientèle beaucoup plus jeune et souvent avec enfants qui compensent l'absence d'étrangers, belges, britanniques ou hollandais. Bavé, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et justement, ce matin, nous sommes avec Solange Escure, directrice générale des Gîtes de France. Bonjour.
Bonjour.
On l'a entendu dans le reportage, les réservations explosent ce week-end, 80%, c'est du jamais vu. Quelles sont les destinations les plus prisées ?
Alors, je dirais l'ensemble du territoire, hein, mais plus particulièrement, on a noté sur la Normandie, les Hauts-de-France, la Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, mais un taux exceptionnel partout.
J'imagine que vous avez à nouveau le sourire après des mois compliqués, forcément.
Oui, ça fait du bien de voir revenir les vacanciers et nos propriétaires sont ravis de pouvoir accueillir à nouveau. Et donc, on a un taux d'occupation historique.
Alors, prochain grand week-end, celui de la Pentecôte, c'est déjà complet?
Alors, c'est en cours, hein, puisqu'on est vraiment sur de la réservation de dernière minute. Donc, on a déjà beaucoup de réservations et un taux d'occupation qui, pour le moment, est encore inférieur à celui de l'Ascension. Donc, il reste de la place et tous ceux qui ont envie de partir pour la Pentecôte peuvent choisir encore leur hébergement.
À bon entendeur. Les signaux sont bons, encourageants pour la période estivale?
Les signaux sont très bons. Hein. Déjà, sur l'été, c'est également un bon taux d'occupation à date, au-dessus de celui de 2019. Donc, de très, très bons signaux pour cette saison 2021.
Eh bien, merci Solange Escure, directrice générale des Gîtes de France.
Merci.
7h08 avec la suite du journal et le rapport qui pointe directement les parlementaires du Rassemblement National.
Oui, c'est à retrouver en exclusivité dans le journal du dimanche. Ce matin, le JDD dévoile un rapport de police qui, après 5 ans d'enquête, lève le voile sur un système de détournement d'indemnités parlementaires.
Les détails avec Pascal Sceau, directeur adjoint de la rédaction du JDD.
Pendant au moins 2 législatures, mais surtout pendant la période 2014-2019, un système centralisé a été mis en place sous la direction de Marine Le Pen. Qu'est-ce qui se passait clairement ? Des indemnités qui étaient normalement pour le fonctionnement des eurodéputés du Rassemblement National étaient détournées pour le fonctionnement du parti en France. On peut dire que le rapport est accablant, qu'il accumule beaucoup d'éléments, mais il faut quand même dire que l'avocat de Marine Le Pen continue, au nom de sa cliente, de dire qu'il n'y a aucune malversation dans cette affaire et qu'il ne comprend pas très bien d'ailleurs pourquoi la justice se mêle de la manière dont les députés européens du Rassemblement National dépensent l'argent qui leur est alloué pour leur fonctionnement.
Et c'est à lire donc dans le journal du dimanche.
Garde à vue prolongée pour Valentin Marcon, l'auteur présumé du double meurtre dans les Cévennes, a refusé l'assistance d'un avocat selon le procureur de la République de Nîmes.
Du sport à présent, Roman, avec un nouveau, dans le championnat de Ligue 1, Clermont-Ferrand.
Oui, le club a rejoint la crème du football français malgré sa défaite hier soir face à Caen, 2-1. Clermont en Ligue 1, une première dans l'histoire du club et c'est mérité pour Pascal Gastien, l'entraîneur.
Oui, bien sûr, c'est historique. Tout le monde est content, tout le monde est euphorique, et puis c'est normal, quoi, parce qu'une équipe comme nous, ou un effectif comme nous au départ, je pense que personne ne nous attendait à cette place-là en fin de saison, et puis petit à petit, on s'est pris au jeu, on a été régulier dans nos performances, et puis on arrive là aujourd'hui. Quand on réussit à une montée comme ça, il y a toutes les composantes du club doivent être au diapason, et elles l'ont été tout au long de la saison.
L'entraîneur de Clermont-Ferrand, Pascal Gastien, au micro de Stéphane Beignet pour Europe 1.
Alors, pour retrouver la ferveur des stades, faudra patienter encore un peu. En revanche, pour les musées, c'est presque bon. Dans 3 jours, réouverture. On reprend donc les bonnes habitudes. Diane Chenouda nous a concocté une sélection des expositions incontournables.
C'est la star de l'art contemporain, Jeff Koons, qui fera l'événement à Marseille avec une vingtaine de ses œuvres les plus célèbres, comme son Balloon Dog, ballon d'acier en forme de chien, ou son énorme cœur rouge sang, qui seront exposés au MUCEM. Et à Paris, à ne pas manquer le choc Picasso-Rodin. Les deux monstres sacrés seront exposés en même temps au musée Picasso et au musée Rodin. Et puis on attend avec impatience l'exposition Signac qui fera la réouverture du musée Jacquemart-André. Ce peintre post-impressionniste, avec ses touches de couleurs pures, Pierre Curie est commissaire de l'expo.
Il va vraiment travailler sur ce monde de la lumière du midi, la lumière de la Provence, tous les reflets et toute cette espèce de palette extrême qu'offrent les paysages méditerranéens. C'est ce travail sur la lumière et sur... Il a trouvé en Provence le paysage idéal.
Enfin, les divas seront à l'honneur à l'Institut du Monde Arabe, d'Oum Kalsoum à Dalida.
Dalida, moi je veux mourir sur scène, 1983 hein, déjà, mais ça marche toujours.
Vous
même
étiez
en
né, Roman Hocker, en 1983?
Alors non, je n'étais pas,
pas
né,
encore.
Mais ça traverse toutes les années, Pierre.
Merci Roman, à tout à l'heure pour le grand journal de 8h et un dossier spécial cinéma.